un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un coup de fil qui a lieu au début de cette année et elle, c'est Fabienne Lhomonnier, notre collaboratrice, qui est tranquillement en train de préparer un sujet sur les hackers lorsqu'elle est contactée par un soi-disant conseiller de la BNP. Le numéro qui s'affiche sur son téléphone est bien celui de sa banque, la BNP. Le conseiller en ligne, qui est en fait un hacker, lui raconte alors l'histoire suivante. Son compte a été piratée, elle doit transférer ses fonds vers un autre compte de toute urgence. Ça fait beaucoup de hackers pour une seule personne en un temps réduit, mais Fabienne est rassurée par le numéro de téléphone et aussi inquiète de se faire piquer ses sous. Donc elle vire tout son argent sur un compte en banque que lui propose le faux conseiller et le vrai hacker. J'espère que vous me suivez. Quand elle comprend dans un éclair qu'elle s'est fait copieusement avoir, il s'ensuit la conversation suivante avec sa vraie banque.
Madame Lhomonnier ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Je me présente à Lille, je suis responsable de service client PSPASPA.
Oui.
Je reprends la communication.
Bon, bah, c'est gentil de m'écouter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un coup de téléphone depuis votre numéro de téléphone. Il m'a dit je suis votre conseiller. Il m'a même envoyé un texto. Et après, il me dit « Les hackers sont sur votre compte. Je viens de bloquer un virement de 5000 euros en Espagne. » Je sais pas quoi. Et il dit donc on va sécuriser votre compte, donc on va mettre tout l'argent sur un compte assurance. Et donc j'ai créé un nouveau bénéficiaire et j'ai mis l'argent de 3 800 euros sur ce compte-là. En raccrochant, je me dis mais merde, j'ai quand même fait un virement de 3 800 balles. Quoi. Et il faut récupérer
ça. On ne peut pas la stopper, la madame, cette opération.
Mais moi, le problème, c'est qu'il a vidé mon compte. Je suis pas riche, j'ai 3000 balles, 3800 balles.
Là, il faut
c'est tout mon compte, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai plus d'argent.
Avec tout, c'est un client. Enfin, malheureusement, on peut rien faire.
Faut au moins que vous me souteniez dans ma demande auprès de l'agence.
Ben là, en fait, c'est vous-même qui avez saisi. En fait, vous l'avez ouvert pour la fraude, dans le sens où si quelqu'un...
Ben si, là, c'est de la fraude aussi, pardon.
C'est de la négligence, c'est vous qui avez...
C'est de la négligence, il appelle depuis votre numéro de téléphone.
Et là, vous pouvez saisir un bénéficiaire. On vous fait sortir 3 800 euros pour un bénéficiaire.
Ouais, mais bon, vous, ça va. Fin...
Je préfère pas vous dire que ça va être en charge parce que j'ai de gros doutes et je pourrais pas me donner trop d'espoir non plus. Là, il faut vraiment vous rapprocher de votre agence pour qu'il fasse la demande de retour de fonds. Moi, je fais un compte rendu tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on programme un rendez-vous du coup à l'agence pour faire le plein avec un conseiller? Est-ce que vous risquez d'être un peu ennuyé au niveau de votre compte?
Je comprends pas. Ennuyé comment?
Au terme de cette histoire, je précise que Fabienne parviendra bien à faire un rappel de fonds et comme elle le fait dans les 24 heures, ça finit par marcher et elle a récupéré son argent. C'est pour ça d'ailleurs que le pirate lui a dit d'attendre 24 heures parce qu'on peut faire un rappel de fonds. Dans les 24 heures, Fabienne a également porté plainte à la gendarmerie. Et tout de suite, voici qu'elle vous et qu'elle nous raconte les deux récits de hacker qu'elle était en train de préparer quand elle s'est elle-même fait pirater. Profession hacker, deuxième épisode, par Fabienne Lhomonnier.
Je m'appelle Baptiste Robert, je suis chercheur en cybersécurité et fondateur de la société Predictalab. Déjà très jeune, en fait, je cherchais à comprendre comment les choses fonctionnaient. Quand on était jeune, on pouvait s'abonner aux revues et on recevait une petite tablette, on recevait une montre. Et j'ai passé toute ma jeunesse à démonter des montres pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. J'étais un garçon un peu particulier, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ma grande passion, même jusqu'à 18 ans, ça a été les mathématiques. Je faisais des maths tout le temps, dans toutes les matières. Et c'était vraiment ce qui m'intéressait. En cours d'espagnol, je faisais des maths. Je faisais partie d'un club de maths. Dans mes loisirs, j'allais rencontrer des mathématiciens. J'avais cette nécessité de travailler sur des problèmes complexes. Et c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, m'anime encore d'une façon différente. Quand on grandit, quand on devient adulte, on se trouve des problèmes différents et qui rapportent de l'argent de temps en temps. Et donc j'en suis venu aux ordinateurs comme ça. C'est que naturellement, l'informatique permet ça. Les systèmes sont tellement complexes qu'on n'en a jamais fait le tour. Le hacker, va avoir une curiosité permanente. C'est-à-dire que vous allez être dans un endroit, vous allez essayer de voir les caméras de surveillance, comment elles sont, où est-ce qu'elles sont, quelle marque c'est, et comment je peux... Voilà, comment ça marche ? Tiens, c'est là, aujourd'hui, on est dans une conférence, comment je pourrais passer sans payer ? Tiens, ben, on a un escalier à côté de nous, est-ce que je peux descendre par là ? Est-ce qu'il y a une porte ? Est-ce qu'il y a des caméras ? On a un vrai problème dans l'informatique, qui est un problème de sens. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'informatique qui, au bout d'un moment, au bout de certaines années, se disent, bah, passer, venir toute la journée pour faire des applications de type Candy Crush, quel intérêt ? C'est quoi le but ? Ça ne m'intéresse pas, en fait. Par contre, faire une application qui va permettre, dans une manifestation en Iran, aux femmes de discuter entre elles alors qu'Internet est coupé, là, il y a un sens. Et c'est un peu tout l'objet de ce que je fais actuellement. C'est de créer des systèmes, créer des outils qui aient un sens et qui permettent de, entre guillemets, changer la société ou aider la société dans ses combats actuels. Une histoire de hacking intéressante et assez particulière qui m'est arrivée un jour, c'est que le Vatican, un jour, a décidé de sortir un rosaire connecté. Un rosaire connecté, c'est ce que vous utilisez pour prier. Il y avait une application qui était associée à ce rosaire connecté. Cette application vous rappelait tous les jours que c'est aujourd'hui le thème c'est ça, la prière du jour c'est ça, etc., etc. Des informations liées à votre foi qui vous permet de prier parce que vous avez envie de prier. Donc en 2020, le Vatican sort ce rosaire connecté, ça passe un peu partout dans la presse parce que très original pour un petit pays comme le Vatican, pour une institution telle que le Vatican de sortir ça. Et donc, comme tout bon geek qui se respecte, le soir, je prends mon ordinateur, je fais des trucs sur l'ordi. Et en fait, il y en a qui font des projets perso. Moi, je testais la sécurité d'applications mobiles. Et il se trouve qu'en une heure et quelques, j'arrive à prendre le contrôle du compte d'un journaliste qui, lui, était dans le train à Manhattan, en train de faire son trajet travail-maison. Je pouvais voir les prières, ses prières à lui, quand est-ce qu'il avait prié, les notes qu'il avait pu mettre. Il n'y avait pas des informations extraordinaires à l'intérieur, mais ça touche à l'intime. On pouvait, dans les prières, effectivement, mettre la pensée du jour, ou voilà, des choses comme ça, des choses assez personnelles. Et donc, vous n'avez peut-être pas envie que votre employeur, que quelqu'un qui vous vaut du mal, sache que vous avez mis une petite note par-ci, voilà. Et donc, il est 23h, je suis chez moi, à Toulouse, dans mon canapé, j'ai réussi à prendre le contrôle de quelqu'un à l'autre bout du monde sur une application du Vatican et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Bon, il va falloir que je trouve un contact au Vatican. Comment je contacte le Vatican ? Je me suis mis à la recherche d'un point de contact et j'ai fini, via la magie des réseaux sociaux, par trouver le prêtre qui habite au Vatican et qui littéralement dort dans sa chambre et la porte en face de la du prêtre qui s'occupait de ce projet-là. Et donc je me suis mis à discuter avec ce monsieur-là et on a travaillé pendant une semaine ensemble avec les équipes qui s'occupaient de ça au Vatican pour réparer la faille. Moi j'ai commencé comme un ingénieur, je suis sorti d'école d'ingénieur, classiquement, pas un destin incroyable, de me dire, ben, moi je suis juste un garçon sur mon ordinateur, sur mon canapé, à Toulouse, pas quelqu'un d'extraordinaire, et en fait je viens à discuter avec un prêtre au Vatican pour réparer une faille de sécurité dans un rosaire qui s'adresse à une communauté de chrétiens qui est extrêmement large. Quand on met en fait une indication financière, légalement, ça peut poser problème. C'est-à-dire que je vais venir vous voir, je vais vous dire « Bonjour, vous avez une faille de sécurité. » Alors que je n'avais pas forcément le droit d'aller regarder. Ça fera X milliers d'euros pour que je vous la dise. C'est de l'extorsion. Ils ne m'ont pas proposé d'argent, mais j'en voulais pas non plus. C'est un jeu. C'est-à-dire que moi, je suis très connecté, au global, je suis très connecté, je suis sur les réseaux, machin, etc. Et je vois passer beaucoup de choses. Et je vois un article et je me dis, tiens, bah, un rosaire connecté, c'est marrant ça. Ça doit marcher avec une application. L'idée globale, elle est vraiment juste de dire, bah, je vois ça, tiens, je vais essayer de comprendre comment ça marche. c'est pas méchant, c'est je vais voir si c'est bien, si c'est bien fait. Et c'est un sentiment assez exaltant, en fait, de se dire ça, je suis le seul à l'avoir vu. C'est un truc que tout le monde a, il y a des millions de personnes. J'ai trouvé des failles dans des téléphones, par exemple. Il y a des millions de personnes qui avaient ce téléphone-là, mais il n'y a que moi qui ai trouvé ce truc-là. Et après, il y a un sentiment de panique en se disant ah, mince, qu'est-ce que j'en fais ? À ce moment-là, il y a beaucoup de solutions. On peut ne rien faire. J'ai trouvé la faille de sécurité, je suis content, le challenge technique est résolu, c'est bon, c'est fait, merci, au revoir. Il y a, je vais faire quelque chose. Quand je vais faire quelque chose, on peut faire plusieurs choses. On peut vendre la faille de sécurité à un tiers. Je me suis fait de l'argent, j'étais pas censé me faire de l'argent, j'en tire profit, je suis content, pourquoi pas. C'est pas très éthique, mais c'est possible. Il y a, je vais essayer de faire quelque chose dans les règles de l'art. Je vais aller essayer de trouver un contact dans la société, dans l'organisation en question, et de les contacter en privé pour bien faire les choses. Et après, il y a, je vais faire quelque chose, je vais la publier. Je vais la mettre publiquement sur les réseaux sociaux, sur Internet, et je vais expliquer tout le truc. Mais en mettant en danger potentiellement les gens. La question éthique est fondamentale dans ce qu'on fait, puisqu'on va pouvoir vraiment obtenir de l'information en masse et parfois de l'information très personnelle qui permettent parfois de gagner des milliers d'euros. Et mettons qu'on est un jeune de 18 ans, on est chez soi, on vient pas forcément d'un milieu social qui est très favorisé, et je comprends qu'en hackant des comptes bancaires, je peux me faire 5000 euros par mois, et qu'à l'école en plus ça se passe pas terrible, bah c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui passent du mauvais côté très jeune parce que c'est facile. On a tous fait des choses illégales. La loi est relativement restrictive. Donc on a tous passé la ligne à un moment donné. On en a tiré profit ou pas. Moi, j'ai jamais tiré profit de quoi que ce soit. Mais il y a des fois, je me suis retrouvé dans un système où j'étais pas censé être. Il y a des gens qui vraiment tirent de l'information. Et c'est un monde très mouvant. C'est-à-dire que la quasi-totalité des professionnels du secteur ont passé la ligne à un moment donné. Mais ils grandissent, ils obtiennent la maturité nécessaire et à la fin, ils aident à protéger le tout. On ne peut pas avoir un discours en disant bah, « je veux aider les gens, je fais ça pour le bien commun, je suis bienveillant, je suis éthique, je suis responsable » et dire bah, « quand même, je suis éthique, mais bon, quand même, je voudrais un peu d'argent ». Tout travail mérite salaire, c'est une évidence, mais là, ce n'est pas un travail. J'ai tendance à dire que le meilleur exemple du hacker, c'est ma grand-mère. Parce que les trucs de grand-mère, c'est du hacking. C'est je comprends comment fonctionnent les choses et je détourne l'utilisation de ces choses-là. Et c'est assez fascinant, en fait, parce que les choses les plus simples fonctionnent.
Je suis Boris et j'ai fait à la fois du hacking, on va dire, offensif, et également mon métier, c'est de défendre les entreprises et les personnes contre les cyberattaques. J'ai 66,6 ans. Ça a commencé quand j'étais adolescent ou jeune adulte, on va dire. On s'est rendu compte avec des amis que, en fait, avec des fréquences numériques dans les cabines téléphoniques, on pouvait déclencher un appel à l'étranger sans payer, en fait. Les cabines n'étaient plus avec des simples cadrans qu'on devait tourner, c'était devenu des boutons avec des fréquences. Et donc, on avait réussi à retrouver la fréquence qui permettait de déverrouiller l'appel international. On y allait la nuit et on a créé une file d'attente devant une cabine téléphonique avec des gens qui appelaient dans le monde entier gratuitement. On a fait ça plusieurs soirs. Nous, on démarrait le système et après, les gens, ils téléphonaient. Ils restaient pas trop longtemps pour que quelqu'un d'autre puisse appeler, ainsi de suite. J'avais 22 ans, là. C'est mon premier hacking avéré. Des cabines téléphoniques, je suis naturellement arrivé au Minitel, ancêtre d'Internet. Et là, Internet, ça a été le coup de foudre. Je m'en souviendrai toute ma vie. On avait une sorte de, ce qu'aujourd'hui on appelle un navigateur, et je tape une adresse et j'arrive sur l'université de Pise. Et là, je vois une page avec des fleurs et puis la description de l'université, etc. Et là, j'ai cliqué sur une description et je suis arrivé sur une autre page. Et là, j'ai fait « Waouh !» Ça veut dire que avec un lien hypertexte, je peux me rendre dans les données de quelque chose qui n'est pas à côté de chez moi ou dans un système privé. En 2019, je travaille pour une société de cybersécurité qui, entre autres, sécurise un réseau de cliniques. Un jour, je reçois un mail d'une directrice de clinique en Suisse. Elle est un petit peu angoissée et paniquée parce que toute l'informatique de sa clinique est bloquée. Et la directrice de cette clinique me dit « Voilà, je suis très embêté parce que regardez sur mon ordinateur, il y a une demande de rançon. » Je regarde sur l'écran de son ordinateur et il y avait le fameux « WannaCry ». J'ai envie de pleurer. C'est une image rouge avec une demande de rançon en bitcoin et un compteur qui défile en disant « Si jamais vous payez pas, la rançon, elle va doubler dans 24 heures. » Cette clinique suisse a été victime de ce que maintenant tout le monde connaît sous le jargon de ransomware ou rançongiciel. C'est flippant. On voit comme un compte à rebours, et ce compte à rebours, c'est un compte à rebours où à la fin, ça va coûter encore plus cher. Il faut bien comprendre qu'une clinique ou un hôpital qui perd son informatique, elle perd pas seulement la gestion des dossiers médicaux, mais elle perd par exemple les badges, les accès aux salles de chirurgie, l'éclairage, l'ensemble des systèmes de climatisation, les respirateurs. L'ensemble de tout ce qui est connecté au réseau informatique ne fonctionne plus. Donc c'est hyper dangereux potentiellement pour la vie même des patients qui sont dans cette clinique. Le fait qu'il y ait à la fois des objets connectés et qu'en plus toute la gestion de la clinique soit informatisée fait que l'ensemble des personnels soignants et la direction sont complètement désemparés face à ces attaques. Les CHU français, notamment, sont extrêmement attaqués par les hackers parce qu'ils ont compris qu'ils seraient à même de payer une rançon. Donc, j'ai la directrice au bord du burn-out et qui me dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire ?» comme si j'étais une sorte de sauveur numérique. Et je lui ai dit « On va regarder déjà quelle est l'étendue des dégâts. » Je prends la main à distance sur un protocole qu'on a défini. Je regarde l'écran en question. Il est totalement verrouillé à travers le système de prise de contrôle à distance. Tous les écrans sont verrouillés de la même manière. Donc la totalité du système d'information de la clinique est bloquée. La demande de rançon est fixée à un bitcoin, ce qui, si on en parle aujourd'hui, représenterait 25 000 euros. À l'époque, le bitcoin était beaucoup moins cher, il était aux alentours de 300 ou 400 euros. Donc je lui conseille dans un premier temps de ne pas payer, parce que payer, c'est favoriser évidemment les pirates en faisant pression sur des vies humaines, ce qui est particulièrement ignoble. Le point principal, c'est évidemment d'avoir des sauvegardes. La directrice avait un disque externe qu'elle emmenait chez elle. Quand ils ont rebranché le disque, il était aussi chiffré que tout le reste, puisqu'elle l'avait utilisé pour faire sa sauvegarde, entre guillemets. Donc, pas de sauvegarde. Le lendemain, comme prévu, le montant demandé double à 2 bitcoins. On regarde de notre côté si on avait une sauvegarde externalisée en clair, non abîmée par les pirates. Et parallèlement, la décision est prise de payer la rançon. Mais d'un point de vue comptable, il n'est pas question de sortir des bitcoins. Et en plus, la directrice n'a pas la moindre idée de ce qu'est un bitcoin, une wallet en bitcoin. Donc elle me demande, est-ce que vous pouvez contacter les pirates et est-ce que vous pouvez payer la rançon en bitcoin avant que ça double encore? Je lui dis oui, vous me virez le montant demandé en euros et ensuite, moi, je prendrai une wallet, un portefeuille que j'alimenterai et qui fera les deux bitcoins et que j'enverrai aux pirates. À l'époque, c'était ultra rapide. Il suffit de payer des euros pour avoir des bitcoins. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué d'alimenter une wallet. Il faut prouver son identité, son domicile, etc. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça. En quelques minutes, j'ai réussi à avoir les deux bitcoins sur ma wallet. Les hackers ont une messagerie, on va dire, privée à travers le dark web. Rentrer dans le dark web, c'est un sentiment mêlé. D'un côté, il y a évidemment les hackers avec qui on va pouvoir discuter, les fameux hackers chat, mais de l'autre côté, il y a tous ces dark markets avec de la vente de produits prohibés qui sont absolument ignobles et qui contaminent le monde réel. Donc là, en l'occurrence, c'était à travers le réseau Tor. Évidemment, encore faut-il savoir ce que c'est qu'un réseau Tor, etc. Donc le commun des mortels n'est pas du tout compétent là-dedans. Mais ceux qui travaillent dans la cybersécurité connaissent très bien. Et je leur dis qu'on est en train de constituer le montant, qu'ils arrêtent le compteur, ce qu'ils font évidemment pas parce que c'est un automate. Mais bon, ça me permet d'avoir une réponse. Et donc, j'ai établi un contact avec eux. Parallèlement, on regarde si on a une sauvegarde viable du système d'information. Et effectivement, au bout de quelques heures, on a des personnes de l'équipe qui disent « Oui, on a retrouvé une sauvegarde viable de la clinique. » J'avais déjà acheté les bitcoins et donc on a lancé la restauration sans trop y croire, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est intègre. Et de fait, on a pu restaurer la quasi-totalité des informations médicales de la clinique en quelques heures. Donc, plus besoin de payer la rançon. J'appelle la directrice, je lui dis « on est sauvé, on a une sauvegarde viable. Il faudra quand même investiguer comment le piratage a eu lieu. Et ensuite, on remettra les accès à Internet et l'ensemble des accès externes. » Et là, je lui dis « et les deux bitcoins qu'est-ce que ça devient ?» Elle me dit, c'est pour toi parce qu'on n'en a pas besoin et puis tant mieux pour toi, garde les deux bitcoins. Le temps passe, enfin quasiment les années passent. Je sais que j'ai deux bitcoins quelque part, mais je ne me souviens même plus le site ou quoi que ce soit. Et je vois dans les news que le bitcoin il flambe. 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Et là, je me dis, waouh, j'ai pas de bitcoin. Je me reconnecte à la plateforme et là, j'ai accès à mes deux bitcoins et je m'aperçois qu'ils valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. En 4 ans, ils ont explosé quoi, en termes de valeur. Ils sont passés de quelques centaines d'euros à environ 68 000 euros. Pour sortir l'argent, le transformer en euros, ça équivaut à des plus-values fiscales. Donc, on est taxé. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux acheter avec des bitcoins, en fait ? De légal, bien sûr. Dans le dark web, on peut acheter sûrement des tas de choses illégales. Légalement, en fait, il n'y a aucun moyen de dépenser des bitcoins. Et là, je vois que Tesla a annoncé la possibilité d'acheter des voitures en bitcoin. Je me précipite, je vais sur le site de Tesla. J'ai été capable, en ligne, sans voir aucun humain, aucune concession automobile ou quoi que ce soit, j'ai été capable de commander la Tesla en ligne. Donc 2 ans après, je reçois finalement la voiture. Faut être patient. Même à un moment, je me disais, je la recevrai jamais, quoi. Et puis si un jour, ils ont dit, voilà, vous pouvez venir la chercher. Et elle était dans un concessionnaire Tesla en région parisienne. Donc avec deux bitcoins qui m'avaient coûté 800. Et c'est quand même dingue ce qui s'est passé dans le monde numérique, quoi, qui a impacté le monde réel, le monde tout court, puisque c'est, on peut transformer ça en une voiture, quoi. Je trouve ça beau, mais flippant à la fois, parce que ça soit du côté des ingénieurs de cyberdéfense ou que ça soit du côté des hackers, on n'est plus du tout dans le hacker curieux et punk. On est maintenant dans un profil de jeune businessman très proche de l'influenceur à Dubaï qui essaye de faire un maximum d'argent en un minimum de temps et d'efforts. Et on assiste à une industrialisation des attaquants. Et du coup, d'une industrialisation des défenseurs, c'est devenu un business à plusieurs milliards. Je vois toutes ces personnes qui sont dans le monde numérique et qui se comportent sans vraiment connaître et comprendre ce qu'elles font. Et donc, c'est très flippant. J'ai des amis qui se font pirater. Ils m'appellent à l'aide, comme on appelle un médecin de la dernière chance. Il faut que les gens se forment, s'informent sur les dangers réels et prennent leurs précautions comme on fait dans le monde réel, une fois qu'ils ont compris en quoi consistaient les menaces. On peut revenir à un monde non numérique et on peut, en tous les cas, pour notre santé mentale, faire des pauses dans le monde numérique et se retrouver que dans le monde naturel.
C'était Profession Hacker, deuxième épisode, un reportage de Fabienne Lemonnier réalisé par Somaya Dabèche. Merci à Boris, à Baptiste Robert qui est le fondateur de Predicta Lab, à Véronique Loquet et aux assises de la cybersécurité de Monaco. Merci également à Véronique et Guillaume pour leur soutien et humour pendant l'épisode de Hacking Bancaire. C'est Rita Ruggirello, notre stagiaire, c'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et en ce moment, nous avons un coup de main d'Apolline Limoncino. I don't fall in prey. All my friends and stuff like that becoming all world warm like that. Came in my life, gave me force. Being apart, taking a soul out, breaking it up in a soul. Even if I'm the one, can't always
Strong, told mom and pop what's wrong.